Départ pour l'espace en ce lundi matin avec votre invitée Isabelle.
Oui, nous allons tourner notre regard vers les étoiles aujourd'hui et nous rendre à la Cité de l'espace et à l'envol des pionniers pour découvrir leurs différentes propositions afin d'occuper intelligemment petits et grands pendant les vacances de Toussaint. Son directeur est dans les studios de Radio Présence. Bonjour Jean-Baptiste Desbois.
Bonjour à vous, merci pour l'invitation.
Avec joie. L'actualité spatiale est bien riche en ce moment. La mission Alpha à laquelle participe Thomas Pesquet, que tout le monde connaît maintenant. Le retour sur Terre après 3 jours dans l'espace des 4 premiers touristes spatiaux de SpaceX. Le recrutement d'astronautes par l'Agence spatiale européenne. Oui, la Cité de l'espace a de quoi diversifier ses propositions. Quel est pour vous, Jean-Baptiste Desbois, l'enjeu d'un tel lieu dédié au spatial tel que la Cité de l'espace ?
Le premier enjeu, nous adressons-nous à tous les publics, vraiment à tous les publics. Il suffit simplement d'être curieux, d'avoir un domaine de curiosité par rapport à l'espace. On peut l'avoir de différentes manières, bien sûr, à travers la science ou la technologie, mais ça peut être aussi de l'histoire, c'est aussi de la géopolitique. Ça peut être simplement qu'on aime rêver, contempler le ciel, puis on a envie d'en comprendre un petit peu plus, pourquoi il y a des constellations, on parle de constellations, c'est quoi une étoile par rapport à une planète. C'est un petit peu tout ça. Donc nous, on s'adresse vraiment à la curiosité publique, tous âges, pas besoin de niveau de connaissance. Et puis notre enjeu, ben voilà, c'est ça, c'est de vulgariser cela. On vient avec des questions, on y trouve quelques réponses. On en oublie quelques-unes après, parce que c'est compliqué. La
mais on revient.
Et on revient, et on s'immerge, et puis on va chercher après dans d'autres revues, on revient à la Cité de l'espace, etc. Et puis voilà, petit à petit, on avance dans ce chemin de la connaissance. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire. Et puis, évidemment, dans cette période où le monde de la science est bousculé, et la perception de la science d'ailleurs, je pense notamment à tout ce qui a pu se passer autour du Covid, le monde des complotistes et tout ça, il y a de grands enjeux, je crois, par rapport à ça. Alors que la science nous apporte évidemment beaucoup.
Est-ce que le spatial a aussi une influence sur la vie sur Terre? Parce qu'on pourrait se dire, bon, ils sont dans les étoiles, ils sont loin et ça ne nous impacte pas. Mais en fait, qu'est-ce que le spatial peut apporter, en fait?
Alors, si on est sur le spatial, on pense donc à deux choses. C'est d'un côté l'envoi d'éléments robotiques, de satellites ou de robots ou rovers sur Mars, par exemple, la Lune ou autre, et puis le vol habité. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on se lève le matin, là, nous sommes le matin, nous avons utilisé chacun entre 25 et 50 satellites. Ce matin, simplement, on a ouvert la radio, on a entendu des informations. La radio, c'est du hertzien, ça c'est les pylônes, oui. Les fameux pylônes. Mais par contre, on a eu la météo, premier élément. Donc la météo, elle vient du ciel pour 90% peut-être des informations, c'est des stations à terre. On a des informations peut-être, je ne sais pas, sur le changement climatique. On va avoir pris la voiture, GPS ou Galileo, qui est le système européen de géolocalisation. Utiliser le smartphone pour aller, alors non pas la partie téléphone du smartphone, ça c'est la partie hertzienne, mais le fait d'être allé chercher sur Internet des informations, d'être allé regarder un article, je ne sais quoi. Internet, c'est aussi le monde satellitaire. Donc on l'utilise énormément. Et si je continue là-dessus, si le champ des applications spatiales est énorme. Et en l'occurrence, nous avons à la Cité de l'espace, tout un plateau dans lequel nous parlons de cela avec le public. C'est extrêmement varié, extrêmement varié. C'est aussi bien l'agriculteur qui va utiliser des données satellitaires pour savoir à quel moment sa moisson devra être faite. C'est l'irrigation, mais c'est aussi la surveillance, bien sûr, des océans. J'ai parlé de climatologie. Plus de la moitié des indicateurs du GIEC viennent de l'espace. Donc, on ne pourrait pas être identifié, connu, mesuré, dans le temps et même dans à l'instantané, sans le domaine satellitaire. C'est totalement, c'est extrêmement varié, extrêmement varié. La surveillance des incendies de forêt, tout ce que, voilà, c'est un champ totalement, même qui est, par certains côtés, presque encore vierge. Il y a encore beaucoup d'imagination à avoir par rapport à tout ça.
Alors, on va faire un coup de zoom ce matin sur trois grandes expositions et propositions que la Cité de l'Espace fait, et notamment à l'occasion de ses vacances de Toussaint. La première proposition concerne la mission à bord de l'ISS de Thomas Pesquet. Elle a commencé le 24 avril dernier. Elle va prendre au mois de novembre, pardon. Alors, comment la Cité de l'Espace va proposer au public de s'associer à cette mission Alpha?
Alors nous avons monté, dès le début du vol de Thomas Pesquet, vous avez rappelé effectivement, il est parti le 23, arrivé le 24, et il va revenir effectivement début novembre, on attend encore
on
la
sait
date.
Pas encore,
oui. On est en lien évidemment avec l'Agence spatiale européenne et le CNES, l'Agence française, et puis la NASA, qui elle va donner le top. On le saura très peu de temps avant, en l'occurrence, mais on se prépare évidemment à suivre ça de très près. Ça se passera d'ailleurs en 2 jours pour information. Premier jour, le désamarrage de l'ISS. La capsule se détache. Et plonge vers la Terre. Et puis ensuite, le lendemain, elle amerrit, puis ça, ce sera dans le golfe du Mexique, hein, elle amerrit, donc elle tombe dans l'eau. Voilà, donc on va suivre ça très très attentivement, évidemment. Alors on a monté donc avec l'Agence Spatiale Européenne et le CNES, l'Agence Spatiale Française, tout un espace d'expo, de suivi vraiment de l'actualité au plus près de la mission Alpha. Cette mission donc de Thomas Pesquet, pour ceux qui ne... Enfin, je pense que beaucoup de public connaissent ce nom maintenant de mission Alpha. Ça permet au public d'être vraiment immergé dans la mission, à la fois dans ce qu'est l'ISS et ce que l'on y fait, dans ce que fait un astronaute, et pas seulement Thomas Pesquet, mais un astronaute là-haut. Donc on a des images en temps réel de la station spatiale, à la fois des vues de l'extérieur qui sont évidemment extraordinaires, ces vues de la Terre, et puis de l'intérieur de la station, où les astronautes dans les différents modules de la station.
Donc on les voit travailler. On les voit travailler.
Après, en fonction des images que l'on a, c'est la NASA qui nous alimente. Évidemment, parfois, on n'a pas d'image. Hein, mais là, c'est le réel. Enfin, c'est le réel, c'est le live, comme on dit. Hein, c'est, voilà, c'est vraiment du temps réel. Et puis on travaille aussi beaucoup, enfin on présente beaucoup aussi au public ce qu'il y a derrière une mission comme mission Alpha. C'est-à-dire on sait tous que Thomas Pesquet est là-haut, mais comment Thomas Pesquet travaille là-haut, grâce à qui, comment ça a été préparé, toutes les missions scientifiques qu'il réalise, tout le travail qui est fait. Et ça, c'est aussi une de nos missions qui est vraiment importante, c'est à la fois de montrer les coulisses et d'inspirer des jeunes, par exemple, à aller vers tous ces métiers qu'on n'imagine pas derrière un astronaute.
Et alors justement, vous proposez une activité pour se mettre dans la peau d'un futur astronaute et vous proposez en fait à petits et grands de se prendre au jeu et d'essayer de se faire recruter par l'Agence Spatiale Européenne, c'est ça ?
Oui, alors c'est presque ça. Mais vous avez raison. On fait en fait un parallèle. Un parallèle, mais il n'y aura pas de croisement. C'est pour ça que je le précise comme ça. C'est-à-dire, c'est un parallèle entre le recrutement d'astronautes européens par l'Agence Spatiale Européenne. Il faut savoir que Thomas Pesquet n'est pas un astronaute français. C'est un astronaute européen de nationalité française. Il fait partie du corps européen des astronautes avec ses collègues, Samantha Cristoforetti ou d'autres. Donc, l'Agence Spatiale a lancé un appel à candidature au printemps, qui s'est clôturé, je crois, fin mai, quelque chose comme ça. Et maintenant, l'Agence spatiale est en train de sélectionner les candidats. Donc, elle lance maintenant, pour à peu près une année, tout un cycle de travail dans le domaine technique, psychologique, logique, enfin, tout ce qu'on peut imaginer.
Et physique aussi, j'imagine.
Physique aussi, évidemment. Enfin, voilà, tout ça, pour aboutir à un nouveau corpus d'astronautes à la fin de l'année 2022. Et nous, en parallèle, donc on a créé une animation en lien, donc justement toujours avec l'Agence Spatiale Européenne. On a créé une animation d'une trentaine, quarantaine de minutes à la Cité de l'Espace, qui démarre ce lundi, en l'occurrence, jusqu'à la fin de l'année 2022, mais c'est une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est pas un module qui va durer c'est pendant toute l'année, mais à chaque fois, ça n'est que 30 à 40 minutes. Et on propose au public de comprendre comment l'Agence Spatiale sélectionne ses astronautes.
Alors l'aventure spatiale ne se résume pas uniquement à l'envoi d'astronautes dans l'espace. Il y a aussi toute une recherche scientifique qui peut être intéressante de découvrir. Quelles sont les propositions de la Cité de l'Espace qui vont dans ce sens, Jean-Baptiste Desbois ?
Alors si on est dans la mission Alpha, on suit beaucoup les missions que réalise Thomas Pesquet notamment actuellement. Mais l'ISS est une chose, mais vous avez peut-être suivi en février et avril dernier également deux rovers majeurs qui sont arrivés sur Mars.
Eh oui.
Notamment le rover Perseverance, la suite de Curiosity. Perseverance est un rover dans lequel la France spatiale est très impliquée. Vous avez donc suivi, je pense, en février et avril dernier, l'arrivée sur Mars de deux rovers majeurs de l'exploration spatiale, donc en rover, c'est-à-dire des éléments qui roulent. D'un côté, Perseverance, rover de la NASA, et puis Zhoujong, qui est donc le rover chinois. Sur le rover Perseverance, c'est la suite de Curiosity qui s'était posée en 2012. Curiosity comme Perseverance, ce sont deux missions dans lesquelles le CNES est très impliqué, notamment le laboratoire toulousain, l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Si vous avez en tête ce rover, on en présente des maquettes de taille réelle.
Très impressionnant. On peut les voir alors.
Les voir. Elles sont motorisées en plus, donc le public peut vraiment les voir s'animer. Et c'est très impressionnant parce que Perseverance, tout le monde imagine... si je peux le dire un peu rapidement, une boîte à chaussures en disant bon, il y a un truc qui s'est posé là-haut, une petite
avec des roulettes.
Avec des roulettes. Ah oui, non, c'est pas des roulettes, c'est des vraies roues. Et c'est quelque chose qui est plutôt la taille d'un 4x4 ou autre chose.
Ah oui.
C'est vraiment impressionnant à voir. Et donc, on a cette caméra laser qui analyse les roches à distance, qui est de fabrication toulousaine. et qui est suivie toujours, ce qu'on appelle opérée, hein, dans le jargon du monde spatial. Elle est opérée une semaine sur deux par les équipes toulousaines au sein du CNES. Et l'autre semaine sur deux, en Californie, par un labo cousin de la NASA qui s'appelle le JPL. Donc, voilà, donc ça, on le suit de très près, on le montre. Pourquoi faire hein, tout cela? C'est aller rechercher si la vie a existé sur Mars. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va sur Mars, ça n'est pas simplement pour explorer, ce qui est déjà, je crois, un peu dans les tripes de l'humanité, d'aller toujours explorer. C'est un peu la nouvelle frontière, Mars, aujourd'hui. Mais c'est aussi parce que Mars a eu un destin assez proche de la Terre au début. Alors qu'on dit au début, je dis, à peu près 3,3 milliards d'années, le système solaire 4,5 milliards d'années. Et puis, les deux planètes qui étaient un peu jumelles ont eu un destin très différent. Mars est devenue une planète quasiment presque morte, quasiment plus d'atmosphère. La Terre est ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que la Terre peut avoir le même destin que Mars ou pas? Qu'est-ce que nous enseigne Mars par rapport à ça? Et puis, grâce à Curiosity en 2012, donc c'était annoncé en 2014, il a pu être démontré, et la NASA l'a annoncé, que Mars a été habitable. C'est-à-dire qu'il y avait les conditions de la vie sur Mars. Maintenant, est-ce que Mars a été habité, c'est autre chose. Hein, c'est-à-dire, est-ce que la vie est née et a disparu, ou est-ce que la vie n'a pas pu naître? Hein, ce sont les deux grandes questions. Mmh. Et donc, c'est le travail de Persévérance aujourd'hui. Donc, on est peut-être à l'aube d'une révolution copernicienne, ou peut-être qu'effectivement, Persévérance va trouver des traces, on appelle ça de biosignature, des traces de vie très fossilisées, très anciennes. Ce serait une vraie révolution, ce serait, on trouve une trace de vie comme ça sur Mars, ça veut dire qu'il y en a partout dans l'univers.
C'est ça, alors toutes ces questions et toutes ces explorations sont présentées à la Cité de l'Espace. C'est aussi une façon de montrer tous ces pionniers des temps modernes, de leur faire honneur. À l'inverse, l'envol des pionniers, toujours à Toulouse, et dont vous êtes aussi le directeur, Jean-Baptiste Desbois, rend hommage à ceux qui ont participé à l'aventure de l'aviation civile et notamment de l'aéropostale. L'un d'eux, évidemment, et sans conteste, Antoine de Saint-Exupéry. Une exposition lui est consacrée. Qu'est-ce qu'elle présente, cette exposition?
Oui, alors, cette exposition, on a voulu mettre un petit peu en exergue Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, dans sa double dimension d'aviateur et d'écrivain. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un et puis un petit peu l'autre, ou l'autre et un petit peu l'un. C'est vraiment un aviateur qui s'est nourri de sa vie, de son expérience, de ses vols, de ses rencontres, pour écrire. Donc c'est vraiment un humaniste, un philosophe de l'action. Mmh. Hein, on peut dire ça un petit peu comme ça.
Donc qu'est-ce qu'on va trouver, alors, par exemple, des avions sur lesquels il a volé?
On a deux parties dans cette exposition. Une première partie où on est sur l'aviateur écrivain, on présente sa vie, son parcours, depuis le moment où il arrive. Il ne faut pas oublier, si on parle d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est qu'il a travaillé à Montaudran, là où nous sommes installés.
Et c'est
le site de l'envol des pionniers. Mmh. C'est le site historique de l'aéropostale. D'abord de la ligne d'Atécoère, puis ensuite de l'aéropostale, donc bien connu sous ce nom-là, puis qui a été popularisé par les livres de Kessel, de Saint-Ex et autres. Et donc il y a vraiment travaillé. Donc la métropole a réhabilité ce bâtiment dans ce qu'il était à l'époque, hein, des années...
Cette piste historique.
Sur le champ, on peut même dire.
Ah,
c'était
le champ.
Un champ au départ. Mmh. Hein, puisqu'au départ, il n'y avait pas de piste. Les avions décollaient et se posaient sur des champs. Puis petit à petit, les avions deviennent plus gros, ils ont besoin de plus de distance pour décoller et pour atterrir. Ça devient donc des pistes. Au départ, ce sont des champs. Donc on est vraiment sur ce terrain-là de champs d'aviation. Donc on a à la fois autour de Saint-Ex, donc ce parcours d'homme. Hein, que l'on explique ses amitiés, ses passions, son activité, parce qu'il a été à la fois donc à Toulouse, il est allé ensuite à Cap Juby, hein,
qu'on appelle Tarfaya dans le Sahara. Mmh.
Voilà, exactement. On était très inspiré par le désert, évidemment.
Mmh. D'où Le Petit Prince.
Oh, oui, tout à fait. Alors qu'il n'est pas forcément né là, mais notamment, ça s'est nourri de plusieurs endroits, d'accord, notamment aussi un crash qu'il a eu en Libye également, mais aussi évidemment là, parce qu'il avait à Tarfaya, enfin donc ce qu'ils appelaient Cap Juby à l'époque, il avait apprivoisé un petit renard aussi. Donc voilà, enfin en tout cas voilà. Donc on voit bien que son imaginaire s'est construit de tout cela. Et puis donc on voit, alors on a quelques pièces, on n'est pas un musée en tant que tel. Hein. L'idée,
oui,
c'est plutôt d'expliquer les choses, de les montrer, de les mettre en situation. Alors on a quelques pièces majeures, je pense notamment par exemple une des pièces de l'avion avec lequel malheureusement il a disparu en juillet 44. Voilà, donc là voilà, ça va être ça, c'est vraiment cette partie autour de Saint-Ex, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis la deuxième partie, c'est toute une salle avec une quinzaine de sculptures d'un sculpteur français, Arnaud Nazaraga, qui a travaillé autour des dessins du Petit Prince. Et c'est très intéressant parce que c'est, alors ce sont des grandes structures, hein, d'un mètre 20, 1m30 peut-être, voire plus pour certaines. Vous trouvez le petit prince, bien sûr, le renard, mais le baobab, vous trouvez la rose, la planète, l'allumeur de réverbère, etc. Enfin voilà. C'est très frais. Voilà, ça nous inspire beaucoup par rapport à cette œuvre du Petit Prince. Dans ces périodes un peu post-Covid, on a besoin aussi de
retrouver un peu. On a besoin de rêve. Oui,
et puis Saint-Ex nous inspire beaucoup, hein, par sa philosophie. Donc on termine l'exposition avec un petit module où on fait réfléchir un peu les gens autour de 5 mots-clés de Saint-Ex. L'amitié, la solidarité, la responsabilité, la spiritualité. Je n'ai plus le cinquième en tête, mais et puis il y a des petites scènes de quelques minutes. Voilà, pour mettre en scène comment on peut, face à, par exemple à la responsabilité, se situer dans la vie. Et puis à partir de là, les gens ont un petit boîtier de vote pour se situer un petit peu, dire comment ils se sentent avec telle ou telle personne. Quelque chose d'interactif pour réfléchir à cette philosophie qui est très inspirante.
Bon, voilà de quoi occuper intelligemment ces vacances de Toussaint et plus, puisque et plus. Effectivement ces expositions vont durer. Merci beaucoup Jean-Baptiste Desbois d'être venu nous présenter et nous faire briller quand même des étoiles dans nos yeux à travers ces expositions et animations à la Cité de l'Espace et à l'Envol des Pionniers.
Merci à vous.